Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le football comme outil diplomatique à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Brésil. Nous retrouvons nos invités, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, et Nicolas Hourcade, professeur agrégé à l'École Centrale de Lyon. Nicolas Hourcade, vous vouliez rajouter quelque chose? On a quitté la première partie de l'émission sur la question de la circulation des joueurs, de la régulation.
Oui, on a évoqué le prix du transfert de Gareth Bale au Real Madrid, qui pose des questions à la fois économiques, aussi des questions morales. Et par rapport à ce que je disais précédemment en termes de régulation, puisqu'on est en plein moment des finales de la NBA, donc la grande compétition de basket professionnelle aux États-Unis, je pense que c'est aussi intéressant de regarder ce modèle-là qui a des principes régulateurs, notamment un salary cap qui permet d'éviter des salaires trop élevés et aussi un système de sélection des jeunes joueurs par les franchises les plus en difficulté. Donc, il y a de nombreux mécanismes dans le basket américain, comme dans tous les sports américains, qui permettent de maintenir un équilibre de la compétition. L'un des risques auxquels est confronté actuellement le football, c'est d'avoir les inconvénients du système européen et les inconvénients du système américain sans les avantages des deux côtés. Parce que, de fait, actuellement, la Ligue des Champions fonctionne un peu comme une ligue fermée, puisque seuls les clubs qui ont le plus d'argent peuvent acheter des grands joueurs et entretiennent leur richesse. Ces clubs performent dans cette compétition européenne, reçoivent des sommes extrêmement importantes de l'UEFA, et donc finalement, la compétition est quasiment accaparée par un petit noyau de clubs. Et dans les mécanismes régulateurs, il y aurait cette moyen de réinstaurer de l'équité entre les compétiteurs pour que ce soit pas toujours les 15 mêmes clubs qui soient en tête de cette compétition. Donc, dans les leviers régulateurs, il y a aussi, est-ce qu'on peut pas regarder ce qui se fait ailleurs sans adapter mécaniquement le modèle du sport américain qui a rien à voir avec le modèle européen, mais s'en inspirer pour essayer d'avoir une compétition un peu plus homogène qu'actuellement.
Alors, Pascal Boniface, les continents les plus présents sur les questions de football, et vous, je parle sous votre contrôle, hein, et vous n'hésitez pas, c'est l'Europe et l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui de la carte mondiale du football, avec un sport qui s'est donc mondialisé, il est planétaire?
C'est même moins que ça, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud. Parce que les trois seuls pays qui ont gagné la Coupe du Monde sur le continent américain, c'est l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil. Jamais les autres pays de l'Amérique latine et bien sûr pas l'Amérique du Nord. Et je crois qu'il y a une différence. La FIFA est quand même assez progressiste dans la mesure où elle a donné l'organisation de la Coupe du Monde à des pays qui n'étaient pas des pays traditionnels de football pour justement permettre d'étendre l'empire. On critique beaucoup l'attribution de la Coupe du Monde à la fois à la Russie et au Qatar, mais c'est dans cette optique-là. C'est parmi les civils qu'on fait des militaires et c'est parmi les pays qui n'ont pas encore pratiqué le football qu'on trouve des nouveaux continents. Sachant que la nouvelle conquête, puisque maintenant géographiquement c'est terminé, ça sera le continent féminin, l'autre moitié du ciel, comme aurait dit Mao. Et donc, en termes d'organisation des compétitions, la FIFA a été progressiste. Les États-Unis, choix critiqué à l'époque en 94, on cède aux sirènes de l'argent, etc. Mais dans le but de la FIFA, bien sûr, il y a l'aspect économique, mais plus important, c'est une nouvelle conquête. Et puis ensuite, l'Asie, avec la Coupe du Monde co-organisé par le Japon ou la Corée du Sud en 2002, l'Afrique du Sud, là également, choix critiqué, en disant, ils ne seront pas prêts, ça pourra pas marcher, mais on conquiert le continent africain et puis par la suite. Par contre, quant au palmarès, je doute que le vainqueur de l'édition 2014 soit un pays qui n'ait pas déjà gagné la Coupe du Monde. Et pourtant là, ce sont des nations. Les budgets ne sont pas en cause. Puisque autant pour les clubs, le budget compte dans la compétitivité, autant le PIB d'un pays n'a pas d'influence sur la qualité de son jeu de football. Le Brésil a eu un football triomphant alors que c'était encore un pays sous-développé, comme on disait à l'époque. Et donc, parce qu'il y a à la fois multipolarisation du sport, le football a conquis le monde, mais il l'a conquis de façon pacifique et dans l'enthousiasme des peuples conquis, ce n'est pas le cas des autres empires qui se sont constitués au cours de l'histoire, mais il faut quand même une habitude, il faut une tradition. Et les jeunes pays du football ne sont pas encore suffisamment compétitifs pour gagner la Coupe du Monde. Il faudra encore attendre quelques éditions avant qu'un pays africain, par exemple, puisse remporter une Coupe du Monde.
Ce sont là les frontières à conquérir. Alors, vous parliez de cette décision de la FIFA d'élargir à d'autres continents donc l'organisation de ces coupes de football, Pascal Boniface, sur la Russie, très bien. Le Qatar, et je me tourne vers vous Sébastien Abyss, on frôle quand même l'aberration avec finalement une Coupe du Monde qui ne va pas pouvoir se tenir en plein été parce qu'il fait évidemment trop chaud. Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être des paramètres à prendre en ligne de compte pour de telles organisations. Et j'en profite pour vous poser la question de savoir comment se porte le foot dans le monde arabe. Sébastien Abyss. Bah,
sur le Qatar, je serai bref en disant qu'évidemment, tenir une telle compétition en plein été peut poser un certain nombre de problèmes et le débat est en cours et aucune décision semble se dessiner de manière très ferme sur le fait que la Coupe du Monde en 2022 se fera en été ou en hiver. La Coupe du Monde au Qatar suscite aussi un certain nombre de controverses sur lesquelles il va falloir faire la lumière d'ici quelques temps puisqu'il y a un débat qui agite la planète football sur l'attribution de cette Coupe du Monde et les modalités d'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. En revanche, ce n'est pas une aberration du tout d'avoir attribué à ce pays, certes, qui n'est pas une grande nation du football, ça a été évoqué, mais c'est un pays arabe et c'est la première fois qu'une Coupe du Monde est prévue dans un pays arabe, ce qui est une vraie aberration en soi, puisque le football dans le monde arabe est extrêmement populaire. C'est aussi une façon de reclasser ce monde arabe, souvent à la marge du monde, souvent perçu de manière négative, comme trop turbulent, comme trop chrysogène, dans le paysage international. Donc c'était une bonne nouvelle, cette attribution d'une Coupe du Monde au Qatar. Et vous posez la question de la situation de ce sport dans cette région du monde particulière. J'insisterai sur 5 petits points très rapides. D'abord, ça a été évoqué, la cartographie de la FIFA dans cet espace du monde montre à quel point on a fait des contorsions géopolitiques pour mettre les nations dans des compétitions différentes. Nous avons la Turquie et Israël qui participent aux compétitions européennes, mais la Tunisie ou l'Algérie participent aux compétitions africaines, et vous avez l'Irak ou l'Iran qui participent aux compétitions océaniques et asiatiques. Donc nous avons eu un effet de division de la cartographie de la FIFA dans cet espace du monde, le monde arabe, qui a toujours été quand même un espace où les frontières ont été extrêmement compliquées. Autre exemple de frontière, le cas de la Palestine, bien évidemment, Palestine reconnue à la FIFA depuis 1998 et où la pratique du football est extrêmement importante, mais aussi extrêmement difficile. Parce que pour les équipes, se rencontrer, circuler, les joueurs aller chaque week-end faire les rencontres, compte tenu du contexte local en Cisjordanie, le déplacement des supporters, le déplacement des équipes est rendu difficile avec les barrages, les checkpoints israéliens. Et nous avons eu l'année dernière, par exemple, le président de la FIFA, Sepp Blatter, est sorti de sa neutralité suisse pour indiquer à quel point le football était contrarié dans sa pratique dans ce territoire palestinien. Un autre exemple qui montre bien que le monde arabe et le football est une problématique en soi, nous avons eu en Égypte des secousses sociopolitiques ces derniers mois où la variable football a toujours été aussi un catalyseur, puisqu'en fait sur le terrain de football, là où il y avait des règles, on exprimait dans les tribunes l'absence de règles, l'absence d'état de droit, l'absence de liberté dans des pays où nous avons eu des révolutions et des manifestations populaires. Et nous avons en Égypte connu des événements révolutionnaires, y compris dans l'enceinte sportive du football, avec le drame qui est survenu à Port Saïd en février 2012, quand les deux grands clubs du pays, Al-Masri de Port Saïd et Al-Ahli, le grand club du Caire, se sont rencontrés et qu'il y a eu un envahissement de terrain provoquant quand même 74 morts dans des violences où il n'y avait pas simplement une rivalité sportive, il y avait une vraie frustration politique, des revendications territoriales et des contestations contre l'autorité centrale du Caire. Donc nous avons un monde arabe où ce qui se passe dans les affaires du ballon rond ont aussi une connotation politique très importante. Je prendrai un dernier exemple, mais celui-là beaucoup plus positif dans un drame syrien qui continue de se dérouler, c'est qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de camps de réfugiés de population syrienne en Jordanie où en fait on fait en sorte que le football permette aux enfants d'être encadrés, d'avoir un système éducatif et d'être dans des liens humains au milieu d'un drame épouvantable. Et donc le football peut aussi recimenter des sociétés, des générations, et il faut aussi souligner que dans le monde arabe nous avons des excès, mais nous avons aussi à travers le football et ce drame syrien des exemples de solidarité entre les personnes qui peuvent se redessiner.
Alors avant de parler football et violence, je me tourne vers vous Nicolas Hourcade, on peut peut-être approfondir un tout petit peu la question du football féminin qui fait encore sourire. La FIFA a décidé de permettre à des joueuses de jouer avec un foulard pour compléter ce que vient de nous dire Sébastien Abyss. Quelle est votre position par rapport à cela et au football féminin en général ?
Alors, moi je pensais développer sur la violence, mais on y reviendra plus tard. Déjà sur le Qatar, puisqu'on en a parlé, il y a un autre problème important, c'est le nombre de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, qui est un problème important. C'est pas uniquement un problème d'attribution à ce pays et de date de la compétition, c'est aussi les problèmes sociaux que ça pose dans un pays lui aussi extrêmement inégalitaire. Ensuite, sur le football féminin, puisqu'on parle de la spécificité des pays arabes, le grand débat qui s'est posé actuellement, c'est est-ce qu'on autorise ce que la FIFA a fait, les jeunes filles à jouer avec un foulard dans les cheveux, ce à quoi la Fédération française de football s'est opposée. Et c'est très difficile de trancher, Michel Platini le dit dans le numéro de la revue internationale et stratégique, parce qu'on peut aussi bien voir l'autorisation du port du voile comme un facteur d'émancipation que comme un facteur de domination. Dans un contexte français, par rapport à notre histoire laïque, c'est choquant pour nous que des jeunes filles puissent jouer avec un foulard, et la position de la FFF se comprend parfaitement. Dans d'autres pays, comme l'Afghanistan par exemple, ça permet à ces jeunes filles d'accéder à la pratique sportive dont elles seraient exclues autrement. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir une position tranchée sur ces questions-là, et plutôt que d'une régulation abrupte internationale, on pourrait avoir une certaine latitude laissée aux pays par rapport à leur culture religieuse et politique locale, de voir comment on peut s'adapter. Ça me choque beaucoup moins que des jeunes filles puissent jouer au football en Afghanistan avec un léger foulard, elles ne seraient pas en burqa. Hein. Ça leur permet d'accéder à la pratique sportive, donc dans ces conditions-là, pourquoi pas. Dans un contexte français, c'est autre chose, et là je comprends la position de la FFF.
Pascal Boniface.
Oui, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Orcade. Il y a un exemple du rugby. La Fédération internationale a admis également depuis déjà quelques temps que des jeunes femmes pouvaient jouer avec un foulard. En fait, ce que constate Bernard Lapasset, qui est le président de la Fédération internationale, c'est que ça a permis le développement du rugby féminin, qui autrement n'aurait pas pu avoir lieu dans ce nombre de pays. Et donc, si l'objectif est l'émancipation de la femme, on peut penser que la pratique du sport y contribue, que c'est un argument pour pouvoir sortir de chez soi, etc. On ne peut pas demander à ces pays d'avoir les mêmes règles que nous. Et donc, je crois qu'il y a des gens qui s'opposent au foulard dans le sport par principe, ou parce qu'ils ont des préventions par rapport aux pays musulmans. Et effectivement, en France, ça serait vécu comme une régression, c'est plutôt un progrès dans les pays où le choix n'est pas pratiqué ou non avec un foulard, le choix c'est pratiquer ou ne pas pratiquer. Et donc, dans ce cas-là, c'est plutôt un progrès, et je pense que le fait de laisser les gens choisir est une bonne chose. Alors, la Fédération française de football et la ministre des Sports s'y opposent, mais la France est candidate à l'organisation d'une Coupe du Monde féminine de football, et si elle obtient cette compétition, elle devra accepter que s'il y a des équipes nationales qualifiées qui permettent la pratique du sport avec un foulard, elle devra accepter que ces jeunes femmes viennent jouer avec un foulard. Et comme l'a dit Nicolas Orcade, attention, c'est pas le voile comme certains disent, c'est un foulard, et c'est encore moins la burqa.
Sébastien Abyss.
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'apporterai juste un bémol par rapport à la place de la religion dans le football. Il y a un débat sur le foulard pour les femmes éventuellement dans le football, avec les aspects positifs ou négatifs qui viennent d'être décrits. Là où je suis un peu plus contrarié, c'est de dire que dans le monde du football français, ça pourrait être perçu comme une régression ou quelque chose de choquant par rapport à l'histoire de notre pays. Parallèlement, il n'y a pas trop de débat, me semble-t-il, sur l'ultra-expression religieuse de certains joueurs très clairement évangélistes dans le championnat de foot français. Donc on voit bien qu'il y a un débat, encore une fois, sur l'histoire du foulard, parce que c'est la religion musulmane qui est en débat, et pas uniquement la place de la religion, puisque sur certaines religions, soit il y a un silence, soit il n'y a pas de débat critique. Et donc on voit bien aussi le deux poids deux mesures dans le football. Quand il s'agit de parler de la place de la religion, l'islam pose davantage problème.
Nicolas Orcade, dans la revue internationale stratégique, vous signez un article sur le hooliganisme, football et violence, sans atteindre le degré de violence des supporters argentins. Le Brésil est l'un des trois pays au monde où il y a eu le plus de morts lors d'affrontements entre supporters au cours de la dernière décennie. Comment voyez-vous cette Coupe du Monde s'ouvrir ?
Alors, il va falloir distinguer ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde du déroulement quotidien du championnat brésilien. Mais avant ça, je voudrais juste faire un petit préalable par rapport à ce qui a été dit précédemment sur Port Saïd. Globalement, quand on parle de football et violence, on a coutume de rattacher ça à l'étiquette de hooliganisme. Depuis 1985, et un drame au stade du Heysel à Bruxelles, où il y a 39 supporters de la Juventus de Turin qui meurent suite à l'agression de supporters de Liverpool, on a mis une étiquette, ce terme-là, hooliganisme, sur tous les phénomènes de violence dans le football. Et ça pose plusieurs problèmes, ça introduit des confusions entre des phénomènes complètement différents, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on fait souvent une liste des drames du football, dans lequel on va tout mettre. On va aussi bien mettre le drame du Heysel, qui est un phénomène de violence à la base, que le drame de Furiani à Bastia, où une tribune s'effondre, que le drame de Sheffield en 89 dans le stade Hillsborough, où des supporters de Liverpool meurent étouffés parce qu'ils sont trop nombreux dans une tribune. Donc il faut déjà distinguer que tous les drames du football ne sont pas liés à la violence des spectateurs, mais peuvent être liés à des problèmes d'organisation, de gestion des foules, etc. Deuxième confusion qu'introduite avec cette notion de hooliganisme, c'est que on amalgame tous les faits délictueux des supporters de football sous cette étiquette. Or, là, par exemple, cette semaine, il y a eu la publication des chiffres du hooliganisme en France. Ça agrège aussi bien les faits de violence, qui représentent une 30% des phénomènes, mais aussi l'allumage d'engins pyrotechniques de manière plus ou moins festive par certains supporters. Donc, il faut faire attention. Sous un même mot, on met des phénomènes extrêmement différents, certains très graves, d'autres moins graves. Et le troisième problème qui me paraît le plus important, c'est que, en utilisant hooliganisme de manière commune, on va mettre exactement sur le même plan le drame de Port Saïd, qui renvoie à des spécificités de la société égyptienne que Sébastien Abyss a bien évoqué. Les violences entre supporters parisiens dont on parlait en creux en évoquant les transformations du Parc des Princes entre deux tribunes de supporters parisiens antagonistes, que les bagarres qui sont très médiatisées entre hooligans polonais dans les bois, parce qu'ils veulent s'éloigner des stades pour pouvoir se battre tranquillement. C'est des phénomènes qui ont tous à voir avec le football et avec la violence, mais qui ont des ressorts extrêmement différent. Et donc, si on revient à votre question sur le Brésil, plutôt que de plaquer qu'est-ce que c'est que le hooliganisme au Brésil, essayons de voir les transformations de la société brésilienne. Il y a de la violence dans le football brésilien, mais fondamentalement, il y a de la violence dans la société brésilienne. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est aussi dans la transformation de la société brésilienne, les clubs de football sont devenus des points d'ancrage identitaires, notamment pour des jeunes de milieux populaires. Donc, il y a un double enjeu dans la transformation du football brésilien. L'enjeu qu'on a déjà évoqué, l'accès de tous au stade, puisqu'avec les nouveaux stades, certains jeunes supporters ou certains supporters des catégories populaires craignent d'être exclus du football. Et ensuite, il y a le fait que le club de football devient pour certains la seule identification positive. Et dans une société hyper violente, ça débouche sur la radicalisation violente qu'on a rencontrée auprès des supporters brésiliens. Mais attention, on l'a évoqué, l'Argentine, les problèmes de violence sont beaucoup plus forts. Et là aussi, ça renvoie à l'organisation politique des villes, où finalement, les groupes de supporters servent de force d'appoint à des notables locaux. Donc, à chaque fois, il y a des dimension locale ou nationale forte qui fait qu'on ne peut pas parler d'un hooliganisme. C'est pour ça que j'avais appelé mon article un phénomène pluriel qui renvoie à une diversité de causes et de phénomènes.
Pour terminer rapidement, Pascal Boniface, dans le registre universalisation du football, les pays à concourir, ce sont la Chine et l'Inde ?
Oui, alors ça sera beaucoup plus facile en Chine où il y a vraiment un appétit pour le football qui se manifeste déjà et une honte des dirigeants chinois qui voient que leur équipe nationale, du fait notamment des problèmes de corruption, n'est pas compétitive. Ils ont été qualifiés une seule fois pour la Coupe du Monde en 2002 et il ne serait pas étonnant. Le choix du Qatar, c'est aussi pour laisser la place nette pour la Chine par la suite, contrairement si la Coupe du Monde a été attribuée à la Corée du Sud ou au Japon qui était également candidat. Et je ne serais pas étonné que la Coupe du Monde 2026 ou au plus tard 2030 soit attribuée à la Chine. En Inde, il y a un problème. L'Inde s'est qualifiée une seule fois pour la Coupe du Monde. Ils n'ont pas voulu jouer parce qu'il fallait mettre des chaussures et qu'ils ne pouvaient pas accepter le contact avec le cuir. Et donc le football, pour des raisons traditionnelles, est beaucoup plus lent à développer. Mais il y a un championnat professionnel qui vient d'être créé. Et on peut dire que les deux dernières terra incognitae pour le football sont encore l'Inde et le Pakistan. Mais je crois que finalement, le docteur Livingstone y sera trouvé assez vite également.
Et également, dans les notes que j'ai pu prendre, les États-Unis et l'Indonésie comme pays à conquérir.
C'est fait. Le sport féminin, le football féminin est très développé aux États-Unis. Et puis, autant les précédentes générations d'immigration européenne abandonnaient le sport national pour devenir américains, les Chicanos se gardent le football avec eux. Et donc, le football se développe aussi par les adolescents. Et en Indonésie, prenez une photo d'une rue de Jakarta, il y a plein de gens qui ont des maillots des grands clubs européens.
Dernière question, Pascal Boniface, votre pronostic pour cette Coupe du Monde, Brésil, donc pas de pronostic, ni les uns ni les autres, Sébastien Abyss non plus, Nicolas Hourcade, pas de pronostic. Alors c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de Géopolitique du Sport, qui vient de paraître aux éditions Armand Collin, et donc la Revue Internationale et Stratégique, qui dans son numéro de cet été, 2014, publie un exemplaire sur le football, l'Empire Pacifique. Merci aussi à Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, et auteur d'un article consacré au football dans les pays du monde arabe, et Nicolas Hourcade, professeur agrégé à l'École Centrale de Lyon. Et sur le Brésil, je signale la revue Carto, ainsi que cette coédition RFI Casterman, aujourd'hui le Brésil, de nos confrères Adriana Brandao et Patrick Stroman. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin et Jonathan Brédy, avec la contribution de la documentation. À très bientôt.